Matière à penser.
Une émission de l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, sixième épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec saint Thomas d'Aquin et la question « Peut-on nommer Dieu ?» Dieu existe, c'est certain. À supposer que nous disions cela, et je ne crains pas de le dire moi-même avec foi et raison, qu'est-ce que cela veut dire ? Car si Dieu est, je suis moi aussi, de même que ma tasse de café ou mon stylo bille. Quel est dès lors le privilège ou la transcendance divine ? Et si je dis que Dieu est bon, il y a d'innombrables autres choses qui sont bonnes, comme la crème au chocolat. Tous les noms que nous employons pour désigner le Créateur viennent des créatures. Nous nous servons du fini pour dire l'infini, du matériel pour dire le spirituel, du relatif pour dire l'absolu. Est-ce que cela ne reviendrait pas à ne rien dire ou à se tromper ? Ne vaudrait-il pas mieux se taire ? C'est ce que nous allons essayer de penser à travers un passage décisif de la Somme de théologie, où Thomas d'Aquin se demande si nous pouvons nommer la substance de Dieu, son être, ou si nos mots ne peuvent que se contenter de dire ce qu'il n'est pas. Derrière cette question, c'est toute une pensée du langage qui est en jeu, car si le langage humain est capable de nommer le mystère, alors c'est le langage lui-même qui devient mystérieux. Mais écoutons saint Thomas.
Manifestement, les noms qui sont dits de Dieu par manière de négation ou qui expriment un rapport de Dieu à la créature ne signifient en aucune manière sa substance, mais qu'il n'est pas ceci ou cela, ou bien sa relation à autre chose, ou mieux la relation d'autre chose à lui. Mais au sujet des noms qui sont attribués à Dieu de façon absolue et affirmative, comme bon, sage et autres semblables, on a émis à ce sujet des opinions multiples. Certains ont dit que tous ces noms, bien que de forme affirmative, sont destinés à écarter de Dieu quelque chose, plutôt qu'à dire ce qu'il est. Ainsi, selon eux, dire que Dieu est vivant, c'est dire qu'il n'est pas ce que sont les choses sans vie, et ainsi du reste. Telle est l'opinion de Rabbi Moïse. D'autres disent que ces noms ne veulent signifier que le rapport de Dieu à la créature, de sorte que quand nous disons « Dieu est bon », cela veut dire « Dieu est cause de la bonté dans les créatures ». Et ainsi en est-il des autres noms. Mais aucune de ces opinions ne paraît admissible, pour trois motifs. Premièrement, selon aucune de ces interprétations, on ne peut expliquer pourquoi on appliquerait à Dieu certains noms plutôt que d'autres. Ainsi, Dieu est cause des corps, autant que des choses bonnes. Si quand on dit « Dieu est bon », l'on ne signifie rien d'autre que « Dieu est cause des choses bonnes », on pourra donc dire tout aussi bien que « Dieu est un corps puisqu'il est cause des corps ». Également, on pourrait dire qu'il est un corps pour dire qu'il n'est pas purement en puissance comme la matière première. Deuxièmement, il résulterait de là que les noms appliqués à Dieu ne lui conviendraient qu'en second, comme quand nous disons d'une médecine qu'elle est saine pour dire seulement qu'elle est cause de santé pour l'animal auquel le mot « sain » convient d'abord. Troisièmement, cela est contraire à l'intention de ceux qui parlent de Dieu. Quand ils disent de Dieu qu'il est vivant, ce qu'ils veulent dire, ce n'est pas qu'il est la cause de notre vie ni qu'il diffère des corps sans vie, mais qu'il est vivant. C'est pourquoi nous devons parler autrement. Ces termes signifient bien la substance divine et sont attribués à Dieu substantiellement, mais ils ne réussissent pas à le représenter. En voici la raison. Les noms que nous donnons à Dieu le signifient à la manière dont nous le connaissons. Or, notre esprit, connaissant Dieu à partir des créatures, il le connaît pour autant que les créatures le représentent. Et on a montré plus haut que Dieu, qui est absolument et universellement parfait, a primordialement en lui toutes les perfections qu'on trouve dans les créatures. Il suit de là qu'une créature quelconque représente Dieu et lui est semblable dans la mesure où elle a quelques perfections. Non pas, certes, qu'elle le représente comme un être de même espèce ou de même genre, mais comme le principe transcendant dont les effets sont déficients à l'égard de sa forme à lui, et dont ils retiennent pourtant une certaine ressemblance, à la manière dont les formes des corps inférieurs représentent la vertu du soleil. Ainsi donc, les noms allégués, bon, sage, signifient la substance divine. Mais ils la signifient imparfaitement, comme les créatures la représentent imparfaitement. Donc lorsqu'on dit « Dieu est bon », le sens n'est pas « Dieu est cause de bonté » ou bien « Dieu n'est pas mauvais », mais le sens est « Ce que nous appelons bonté dans les créatures préexiste en Dieu, quoique selon un mode supérieur ». Il ne s'ensuit donc pas qu'il appartienne à Dieu d'être bon en tant qu'il est cause de la bonté, mais plutôt inversement, parce qu'il est bon, il répand la bonté dans les choses. Selon ces paroles de saint Augustin, « Parce qu'il est bon, nous sommes ».
Fabrice Hadjadj, nos mots signifient bien la substance divine et sont attribués à Dieu substantiellement, mais ils ne réussissent pas à le représenter. Quel est le contexte de ce texte ?
Nous sommes dans un texte qui se situe, on pourrait dire, au début de la somme de théologie, et qui constitue, alors même que ça n'est pas le tout début, hein, puisque le tout début concerne les premiers attributs de Dieu, hein, que Dieu est simple, enfin que Dieu est, que Dieu est simple, que Dieu est bon, etc. Mais vraiment sur notre manière de nommer Dieu. Hein. Et c'est un texte absolument formidable parce qu'il pose un problème fondamental. Déjà, quand nous disons Dieu, ça devient un mot parmi d'autres hein, dans la langue. Et donc, on pourrait penser qu'il est un être parmi d'autres, déjà. Donc, ça pose un problème. Quand nous disons Dieu, nous employons un mot parmi d'autres, mais cependant, par ce mot, nous signifions ce qui est la source de tout mot, de toute parole, de tout être. Donc il y a un décalage, il y a une sorte, on voit bien qu'il y a un problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pourrait presque dire que Dieu se laisse nommer. C'est déjà une première manière pour Dieu, non pas de se faire chair, mais enfin de descendre vers nous. Et de s'exposer aussi à toute forme de manipulation. De la même façon que le Christ, en se faisant chair, s'expose à mourir sur la croix, à être battu par les hommes, eh bien, Dieu, se laissant nommer, on peut dire n'importe quoi, on peut créer des jurons, on peut dire, voilà. Et justement, le fait que Dieu soit un mot parmi d'autres, c'est quelque chose de très étonnant. Alors, surtout le contexte ici, s'il y avait un début qui était un peu difficile, c'est de savoir, il y a des mots qui n'expriment Dieu que par manière de négation. Donc, on dit ce qu'il n'est pas. Par exemple, lorsqu'on dit que Dieu est immuable ou immortel, bon. Là, on dit qu'il est non changeant hein, ou non mortel. Mais ça ne désigne pas ce qu'il est, ça dit ce qu'il n'est pas. Et peut-être que tous les mots que nous employons à propos de Dieu n'auraient qu'un sens négatif. De l'autre côté, il y a des noms qui expriment Dieu par la relation avec la créature, ce qui est dit dans un second temps. Par exemple, lorsque nous disons que Dieu est Seigneur ou que Dieu est Créateur, ben, on est toujours le Seigneur de quelque chose qui est un subordonné ou de quelqu'un qui est un subordonné. Il n'y a de dominus que pour un domaine ou pour des vassaux. De la même façon, créateur en fonction des créatures. Donc, ça n'est qu'un nom relatif. Et même, il y a cette phrase absolument remarquable de Thomas d'Aquin. Est-ce que ça dit sa relation de Dieu, de lui aux créatures, ou plutôt la réaction des créatures à lui parce que pour Thomas, c'est pas comme si la chose s'imposait de l'extérieur comme un être qui s'ajouterait à Dieu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dira toujours que la relation est réelle du côté de la créature, mais qu'elle est logique du côté de Dieu. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces subtilités, mais enfin bon, c'est un point très fondamental, vous voyez, mais tout est à sa place ici. Hein. Et puis, il y a d'autres noms qui sont attribués de manière absolue et affirmative. Lorsque l'on dit, par exemple, que Dieu est, là, on parle de son être, ou qu'il est bon, ou qu'il est sage. Bon. Et là, la grande question ici, c'est est-ce que nous parvenons à dire quelque chose de ce que Dieu est en lui-même ? Non pas par négation, Et voyez, la voie purement négative, ce serait ce qu'on appelle la voie apophatique, hein, la voie de la théologie négative. On ne peut rien dire de Dieu, ou on ne peut dire que ce qu'il n'est pas, parce qu'il est absolument transcendant. Et il y a une légitimité à cette voie. De l'autre côté, il n'y a que des noms qui sont relatifs, mais alors qui ne l'expriment pas en lui-même. Or, Dieu existe ou il est indépendamment, je veux dire, du fait qu'il est créateur, puisqu'il aurait pu ne pas créer le monde, enfin, il aurait pu, voilà. Et puis, et il n'est pas un être, justement, relatif. Ouais. L'exprimer dans une relation serait dire « Ah ben, Dieu est relatif aux créatures ». C'est que créateur, il faut qu'il y ait des créatures pour qu'il y ait Dieu. Et donc, il dépendrait de cette création. C'est pour ça qu'il dit, c'est plutôt la relation des créatures à Dieu que la relation de Dieu aux créatures, puisqu'il il est en dehors de cette relation, alors que la créature n'est pas en dehors de cette relation. D'où l'idée que la réalité de cette relation pour la créature. Et puis, donc, la question, c'est de savoir si notre parole est capable de désigner Dieu dans ce qu'il est. Et donc, si on peut dire que Dieu est. Et ici, il y a une affirmation extraordinaire de Thomas, qui est l'affirmation d'une vraie théologie affirmative, justement, où les mots sont aptes à dire quelque chose de Dieu, de manière déficiente, bien sûr, on y reviendra, mais il y a cette aptitude. Et ça, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a une positivité dans le langage. C'est ça qui est très étonnant. Et donc, une connivence, je dirais, de la parole avec le mystère divin. Voilà. Pas simplement quand la parole est obligée de se nier elle-même, de dire « mais c'est au-delà, ça n'est pas ça, ou ça n'est pas encore ça, ou ça n'est pas… » mais aussi dans ses affirmations, c'est ça qui est beau, donc dans sa positivité même. Et ça, je crois que on est au cœur de quelque chose de profondément dominicain. Parce que il faut se souvenir de l'origine de l'ordre de Saint-Dominique. L'origine, c'est quand même une prédication contre des albigeois, les cathares, des gens qui disaient que le monde était mauvais, que tout ce qui était créé était mauvais, ou l'œuvre d'un mauvais démiurge, et qu'il fallait s'élever au-delà, d'une certaine façon, du créé. Et d'une certaine façon, la théologie albigeoise, qui méprisait la création matérielle, finissait aussi par mépriser la parole humaine, comme étant justement finie, limitée, inapte à dire positivement Dieu, mais ne pouvant le dire que négativement. Il fallait d'une certaine façon que la parole se nie elle-même pour qu'elle aboutisse à cette ouverture à un principe au-delà de tout ce qui est créé. Or, toute la tâche des dominicains, ça a été de dire « non, la création est bonne, la création matérielle est bonne ». Et toute la force de Thomas d'Aquin, dans le combat face à cette hérésie gnostique, ça a été justement d'insister sur la bonté de la matière, sur la bonté des choses, comme on l'a vu la dernière fois, comme étant d'une certaine façon des paroles de Dieu, ou la voix du Verbe. Et donc, là aussi, on a un élément de cette positivité, on pourrait presque dire, de cette joie de la création matérielle, typiquement de dominicain.
Oui, on pourrait entendre dans le Ordo Predicatorum, non seulement ceux qui prêchent, mais aussi ceux qui prédiquent de Dieu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce que Dieu est. C'est une affirmation qui est énorme, et on voit bien que derrière, il y a toute une tradition qui tend à s'y opposer. Et notamment, celle d'un grand théologien juif. Il ne faut pas oublier que Thomas, ici, montre qu'il est un lecteur de Maïmonide, hein, ce rabbi Moïse, c'est Moïse ben Maïmon. Et donc, Maïmonide disait, non, les mots que nous employons ne disent pas ce que Dieu est. Et il est au-delà de tout nom. Et la remarque de Thomas d'Aquin, c'est de dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est bon? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas aussi qu'il est mauvais, à la limite? Pourquoi est-ce qu'on choisit certains mots plutôt que d'autres? C'est bien que forcément, il y a une sorte de signifiance, en tout cas dans ces mots. Il faut bien voir qu'après Thomas aussi, hein, dans tout le courant nominaliste, mais qu'on trouvera aussi en grande partie chez Descartes, où chez Descartes, il y a une sorte de mystique extrêmement négative, enfin de théologie négative par rapport à Dieu, où il dit, les vérités éternelles sont créées et Dieu est au-delà de toute nomination. Et donc, on retrouvera toujours cette tendance, et même chez des gens comme Heidegger, comme Derrida, vous voyez, cette fascination pour ce qu'on appelle la théologie négative.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, peut-on nommer Dieu ? Fabrice Hadjadj, beaucoup de dominicains travaillent actuellement, je pense notamment au père Thierry Dominicain Brecht, travaillent justement sur cette question de la théologie négative chez Thomas d'Aquin, et il apparaîtrait, et puis c'est notamment le cas dans cet article-ci de la Somme théologique, que la voie négative sert d'une certaine manière à purifier le langage dans un premier temps, pour redonner ensuite la primauté à la prédication, et à justifier en fait, et à légitimer la prédication positive des perfections divines. Et donc on part toujours d'une perfection humaine pour montrer que cette perfection est d'une certaine manière une participation et une manifestation de la bonté divine.
Oui, donc en fait, Thomas d'Aquin articule trois choses. La première chose, c'est il dit que nous connaissons à partir des créatures. Donc tout ce que nous allons dire de Dieu, c'est à partir du créé. Et donc c'est l'expérience de la bonté dans les choses, et vous l'avez dit, la crème au chocolat, je fais l'expérience d'une bonté. Je constate cependant que cette bonté est une bonté qui est limitée, qui est une bonté finie. Je pourrais même dire que dans mon expérience de la crème au chocolat, je dis c'est bon, mais je reconnais en même temps, mon intelligence dégage la notion de bonté, mais elle reconnaît aussi que ça n'est pas le bon. C'est un bon relatif, passager, qui, si j'en prends trop, peut causer une indigestion, etc. Donc, c'est une bonté toute relative. Donc, de toute façon, au moment même où mon intelligence dégage le fait que c'est bon, elle reconnaît que ça n'est qu'une participation à la bonté. Ça, déjà, Platon le disait. Et donc, il n'y a pas de bonté, là, absolue, une participation à la bonté, de telle sorte qu'en même temps qu'elle affirme c'est bon, l'intelligence dit « mais ça n'est pas le bon ». Donc il y a déjà une négation à ce niveau-là. S'agissant après du passage si on sort simplement de la logique de la participation telle qu'elle existe chez Platon, mais là plutôt d'affirmation de la transcendance divine, Thomas d'Aquin va dire donc « nous commençons par dire les choses sont bonnes, donc Dieu est bon, mais après on doit » et c'est ce que dira par exemple le Concile de Latran, si grande que soit la ressemblance entre le Créateur et la créature, il faut penser une dissemblance plus grande encore. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, mais il n'est pas bon à la manière des créatures. Il n'est pas bon même comme le super bon d'une super créature. Donc, on a raison de dire que c'est bon, mais la manière de signifier du mot bon, comme il nous vient des créatures, eh bien, n'est pas la bonne manière. Donc, il y a une négation. On peut dire, on doit dire en même temps, il n'est pas bon comme les créatures sont bonnes. On connaît les manières de dire, par exemple, de Denis. Denis l'Aréopagite dira, il est super bon, au-delà du bon, suressentiel, au-delà du sage. Et donc, on est dans un mode de pensée où on commence par l'affirmation qui nous vient des créatures, puis vient une négation qui dit « oui, mais il n'est pas bon à la manière des créatures », pour après, effectivement, entrer dans une affirmation qui, à la fois, dit « on ne peut pas dire, il est vraiment bon, c'est pas un mensonge, c'est pas simplement parce qu'il est cause de bonté, c'est pas simplement... » Mais il est au-delà de notre manière de... Voilà, c'est un mode de signifier infini qui nous échappe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout d'un coup, nous sommes face à une bonté qui est éblouissante et donc qui nous est obscure aussi en même temps, et qui n'est pas la même que la bonté des créatures. Mais c'est là où... Mais c'est vrai quand on dit qu'il y a une vérité, il y a une affirmation.
Fabrice Hadjadj, vous dites que tout ce que nous disons de Dieu, nous le disons à partir du créé. Et en même temps, est-ce que Thomas d'Aquin ne dit pas que, par exemple, quand il dit
ce que nous appelons bonté dans la créature préexiste en Dieu. Et donc, que nous puissions dire « cette chose est bonne », en fait, nous le disons déjà de Dieu. Et donc, ce n'est pas par les choses que nous disons Dieu, mais c'est par Dieu que nous disons les choses. Et donc, que la dignité du langage humain ne serait pas tant de pouvoir nommer Dieu, en fait, et pouvoir prédiquer quelque chose de Dieu, que de recevoir de Dieu la possibilité même de prédiquer des choses.
Alors, bon, je n'irai peut-être pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est qu'il dit, si on dit que Dieu est simplement cause de la bonté, mais qu'il n'est pas bon en lui-même, à ce moment-là, la bonté serait premièrement dans les créatures et secondairement en Dieu. Et il dit, ça ne tient pas. C'est de Dieu qu'on dit premièrement et véritablement et absolument et pleinement qu'il est bon. Et c'est là où tout d'un coup le langage se charge de mystère. C'est ça ce que vous disiez au début. Notre langage est capable de signifier le mystère de manière défaillante, bien sûr, en passant par cette reconnaissance que le mode de signifier des créatures n'a rien à voir avec le mode de signifier, mais c'est vrai que c'est le concept de bonté qui est en jeu. Et ça fait retour, c'est-à-dire que quand je dis de n'importe quoi, tiens, c'est bon, voilà, cette crème au chocolat est bonne, j'emploie un mot, le mot bon, ou de n'importe quoi, c'est. Vous êtes Galdric, alors voilà, vous êtes quelqu'un, vous êtes... Mais ce mot « être » n'existe pleinement, primordialement, absolument qu'en Dieu. Donc, la langue, le langage, est envahi par des mots où nous ne cessons de parler de Dieu. Toujours. C'est-à-dire que en fait, quand nous disons bon, quand nous disons sage, quand nous disons vrai, quand nous disons être, aucune créature ne réalise pleinement l'être. Aucune créature. Vous voyez, et on a des mots qui n'ont leur pleine signification qu'en Dieu. Donc, si quelqu'un, vous voyez, question de parler de Dieu, mais n'importe qui parle de Dieu à partir du moment où il dit « Ah ben j'ai mangé une super bonne pizza ». Alors, vous posez la question, bah, « Tiens, c'est intéressant, super bonne, mais qu'est-ce que tu entends par super bonne ?» Et est-ce que tu crois que cette pizza est absolument bonne, qu'elle va réaliser toutes les perfections pour ta vie, pour la, voilà, qu'elle va sauver le monde? Non, mais alors d'où te vient tout d'un coup, le fait que tu dises c'est bon, tu sens bien que ça participe de quelque chose qui est plus grand. Et donc, toute affirmation, dès qu'on on attribue à une chose une quelconque perfection, effectivement, il y a inconsciemment, implicitement, à partir même du mouvement du langage, quelque chose qui fait signe vers Dieu. Et ça, c'est le mystère de la langue.
Fabrice Hadjadj, Thomas d'Aquin, on raconte, a fait une expérience mystique vers la fin de sa vie. Et à l'issue de cette expérience, on raconte qu'il aurait tenté de brûler ses textes parce qu'en en fait, il n'avait rien dit de Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas relire cette expérience à la lumière de ce texte en se disant que d'une certaine manière, la théologie apophatique a quand même raison, qu'il vaut mieux peut-être se taire, finalement.
Alors, il dit que tout ce que j'ai écrit, ça n'est que paille par rapport au mystère divin. Alors d'abord, comme je dis souvent, l'enfant Jésus a voulu être couché dans la paille, donc ça ne veut pas dire rien. La paille, même si la paille brûle, ou même si la paille est du foin pour les animaux. Mais d'un autre côté, cela signifie qu'on est face aussi à de l'inépuisable. Et c'est le propre d'une grande œuvre théologique, on pourrait dire, de dire qu'elle n'est pas achevée, d'une part. L'inachèvement de la somme de théologie est presque, on pourrait dire, son véritable accomplissement comme œuvre théologique. Si elle se présentait comme complètement achevée, voilà, il n'y a plus rien à dire, non. Et donc, vous voyez, c'est le fait qu'il y a encore à dire. Le fait que, justement, l'affirmation n'est jamais terminée. Et ça montre aussi que l'affirmation, finalement, de cette théologie ne s'accomplit que dans une louange. Le propre de la louange, c'est de dire de reconnaître que ça n'est pas encore à la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est que dans la négation, et même on pourrait se reposer dans une sorte de théologie négative, en disant « je ne dis plus rien sur Dieu, non ». On ne peut pas... il est au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais ça, il faut le dire. Cela, il faut le dire. Et on ne cesse de dire qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et c'est une forme d'affirmation. C'est du côté de cette affirmation que se joue toute la théologie.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Saint Thomas d'Aquin, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 18h30, les vendredis à 14h, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt. Et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.